Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Alors, on a eu des messages à chaque fois qu'il y avait des absences. On a pioché dans ce chapitre, mais on a pioché déjà la semaine dernière. Et là, on va revenir dans ce chapitre d'Éphésiens, chapitre 2. Et on va lire le chapitre en entier pour bien suivre le raisonnement de l'apôtre Paul. Mais on va surtout se focaliser sur les versets 11 et 12. Donc on va lire le chapitre entier. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Voici la parole de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui était deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et jusque-là, la parole de Dieu. Souvenez-vous, n'oubliez pas, rappelez-vous. On retrouve ces exhortations sur des monuments au souvenir de soldats qui sont tombés lors des conflits mondiaux que l'on a connus ou d'autres conflits importants. Mais c'est aussi une exhortation que l'on retrouve partout dans la parole de Dieu. En Apocalypse 3, verset 3, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse aux églises dit ceci: Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mais plutôt, dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, le souvenir était la clé pour la fidélité à futur. Le peuple, rappelez-vous, venait de sortir d'Égypte, de cet esclavage, c'est une merveilleuse délivrance d'être arrivé à la liberté. Mais Moïse va avertir le peuple. Deutéronome 4, verset 9, il dit au peuple d'Israël, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement à ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Et donc, partout dans la parole de Dieu, on a ces exhortations de se rappeler, de se souvenir, de ne pas oublier. Parce que lorsque le peuple d'Israël a oublié de se souvenir, le livre des Juges, par exemple, nous parle de cette génération qui s'est levée, qui a grandi et qui est tombée dans le péché et sous le jugement de Dieu. Un commentateur parle d'une mère qui dit à ses enfants, lorsque les enfants partent pour l'école, elle leur dit ceci chaque matin, « Souvenez-vous qui vous êtes et à qui vous appartenez. » Et on pourrait dire, c'est ce que Paul veut dire ici aux croyants. C'est ce que Paul veut rappeler aux croyants. Au début du chapitre, on l'a vu à différents moments, que Paul nous donne ce merveilleux enseignement au sujet du salut que Dieu procure en Jésus-Christ. Dans les versets 1 et 10, il enchaîne avec cette exhortation au verset 12. Souvenez-vous, souvenez-vous. C'est la première exhortation que Paul donne dans cette lettre et cela souligne son importance. Avant d'arriver à l'application un peu plus loin dans cette lettre, il nous donne cette exhortation, souvenez-vous. Et c'est de cette façon que nous sommes appelés à vivre la vie chrétienne, en nous souvenant, en nous rappelant de ce que Dieu a fait pour nous et en vivant à la lumière de ce que Dieu a fait pour nous. Le verset 11 est une transition. On a cette expression « c'est pourquoi ». Donc, il lit ce que Paul vient de dire avec ce qui va suivre. Et donc, il est bon de se rappeler où nous en sommes. Le chapitre 2 parle de la paix que Dieu donne par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Il parle de la paix que Dieu nous donne avec lui quand il nous réconcilie à lui-même. Nous étions, comme Paul le souligne, les objets de la colère de Dieu. Nous étions sous sa colère, comme tout le monde, comme tout le reste. Mais nous sommes maintenant, dit Paul, les objets de sa grâce et de sa miséricorde en Jésus-Christ. Nous étions esclaves de ce monde, esclaves de la chair, esclaves du diable. Maintenant, nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu. Et le reste du chapitre, commençant donc au verset 11, nous parle de la paix sur terre, la paix dans nos relations les uns avec les autres, alors que Dieu réconcilie les pécheurs, non seulement les pécheurs avec lui-même, mais les pécheurs les uns avec les autres. Et il parle surtout de cette grande séparation qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Et Dieu, des deux, n'en a fait qu'un en détruisant l'inimitié. À la fin du chapitre 1, Paul a prié pour que nous connaissions les richesses de notre salut. Dans ce chapitre 2, il dévoile ces richesses, comme notre paix avec Dieu et notre paix les uns avec les autres, et tout cela par la grâce que Dieu manifeste en Jésus-Christ. Paul commence en reconnaissant qu'il y a une division parmi les hommes. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui reconnaissent qu'il y a deux types de personnes et ceux qui reconnaissent qu'il n'y en a pas. Mais Paul fait partie de ceux qui reconnaissent qu'il y a deux types de personnes. Et c'est le premier point, deux types de personnes. Il veut que nous nous souvenions de ce que nous étions auparavant et de ce que nous sommes devenus par la foi en Christ. Donc il y a bien un changement. Versets 11 et 12, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, autrefois, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Partout où il y a une division, il y a des injures. Les enfants le connaissent, le savent, ils l'apprennent ça à l'école. Les adultes le voient, ils voient ça en politique, ils voient ça dans la famille. Parfois, malheureusement, ils voient cela aussi dans l'Église. Le monde ancien le savait. Paul pointe du doigt ce grand fossé qui divisait le monde ancien, cette séparation entre le peuple juif et le reste du monde, les païens. Et cette division était soulignée en particulier par la circoncision. Paul, qui écrit à cette église d'Éphèse, à cette église qui est composée essentiellement de personnes d'origine païenne, souligne cela et dit, ben voilà, les juifs vous appellent les incirconcis, qui était une insulte. Rappelez-vous, tu avais donné le signe de la circoncision comme marque pour le peuple d'Israël, pour les séparer pour Dieu, pour qu'ils vivent pour Dieu. Et les Israélites devaient utiliser cette séparation pour attirer les autres nations à croire en l'Éternel qui s'était révélé dans sa parole, à croire dans le seul vrai Dieu. Mais au lieu de cela, le peuple juif a utilisé la circoncision comme une marque de supériorité, comme un mépris pour les autres peuples. Et au lieu de se soucier de la condition spirituelle des païens, les juifs se sont plutôt réjouis du fait que les païens avaient été essentiellement créés pour alimenter les feux de l'enfer. Les juifs ne parlaient pas aux païens. Ils ont même voté une loi qui interdisait à un juif d'aider une femme païenne à accoucher, parce que cela allait amener un autre païen dans le monde. Malheureusement, les chrétiens parfois agissent ou considèrent les non-chrétiens de la même façon. Ils les considèrent davantage comme étant rejetés plutôt que d'être gagnés à Christ. Et en appelant les païens incirconcis ou incirconcision, les juifs en fait se réjouissaient dans leur ignorance de Dieu. Mais de l'autre côté, les païens n'étaient pas en reste non plus. Ils répondaient à l'insulte des juifs en appelant les juifs les circoncis. Ils étaient fiers de leur identité grecque, de leur nature, de leur culture grecque. Et ils regardaient de haut tous ceux qui ne vivaient pas selon leur train de vie. Ce qui est important ici, ce n'est pas la circoncision, c'est la division. C'est la haine, c'est la guerre entre les hommes. Et on sait que les hommes se diviseront et se battront pour n'importe quoi. Tous les progrès que nous avons supposés faits depuis l'apôtre Paul n'ont rien changé. Le monde n'a pas trouvé de solution à ce problème. Paul dit au sujet de la circoncision, il précise, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Et Paul précisera par exemple en Galates chapitre 6 verset 15, ce qui est important, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et c'est la même chose avec toutes les traditions religieuses, tous les rituels d'aujourd'hui. Ils n'ont aucune valeur en eux-mêmes. Ce qui compte, c'est la réalité spirituelle. Dans le cas des Juifs, la circoncision physique était un signe qui devait symboliser la dévotion du cœur. Ça ne devait pas devenir une source d'orgueil. Moïse avait dit en Deutéronome 10, verset 16, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. » La circoncision devait être le signe d'une dévotion pour Dieu, une dévotion envers Dieu. Et si les Juifs n'avaient pas cette correspondance spirituelle avec le signe de la circoncision, l'incirconcision des païens, elle, était une description fidèle de leur état spirituel. Et Paul veut donc que les chrétiens réalisent combien pauvre était notre état d'origine. Verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » Et ça ne concerne pas seulement les croyants du premier siècle, c'est la description de tous ceux qui aujourd'hui vivent loin de Dieu. C'est la même description. Et donc, deuxièmement, on va voir ce que Paul dit de ce que nous étions avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avant de lui appartenir, et ce que sont tous ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. La première chose qu'il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Il ne veut pas simplement dire qu'avant de devenir chrétien, ces personnes étaient sans Jésus-Christ, parce que ça, c'est quelque chose d'évident. Quand Paul parle de Christ ici, il utilise le terme grec qui traduit le terme hébreu « Messie ». Il n'avait pas de sauveur. Et c'était vrai pour la religion grecque, c'est vrai aussi pour la religion laïque d'aujourd'hui. Si on lit les textes grecs de l'Antiquité, on trouve qu'ils n'ont aucun espoir, aucune espérance d'un sauveur. Les Éphésiens, par exemple, vivaient dans une ville où on adorait l'horrible déesse de la fertilité, qu'on appelle Diane ou Artémis. Et si on achetait les faveurs de cette déesse, elle pouvait, soi-disant, offrir son aide ou sa force, mais elle ne pouvait pas offrir le salut. Elle ne pouvait pas apporter une délivrance aux problèmes que l'homme rencontre dans la vie. Les philosophes grecs n'ont aucune idée, aucune notion de salut. Ils considèrent l'histoire comme un cercle sans fin, sans but, sans plan, sans destinée. Par opposition, les Juifs avaient une perception positive de l'avenir. Et malgré tous leurs problèmes, ils ne doutaient jamais de la venue du Messie. Ils attendaient le Messie. Et malheureusement, ils l'attendent encore. Aujourd'hui, la conception païenne du monde est dominante. Mais cette conception païenne, soi-disant nouvelle, n'a absolument rien de nouveau. Une conception du monde, c'est quelque chose qui nous fait poser des questions et qui va nous aider à comprendre la réalité. Qui suis-je? Quel est le problème avec l'humanité? Quelle est la solution que l'on peut apporter, que l'on peut trouver? Le monde aujourd'hui, la conception du monde d'aujourd'hui est directement importée du monde païen de l'Antiquité et qui dit que nous sommes simplement les produits de la chance, du hasard et que la vie n'a pas de but. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement essayer de s'en sortir avec un maximum de plaisir et un minimum de souffrance. Et on doit chercher la réponse en nous-mêmes. Voilà ce qu'on nous dit. Mais cette même société ignore volontairement que tout cet individualisme, tout cet égocentrisme ne fonctionne pas. Et on trouve des gens dans nos villes, partout, qui sont pleins de désespoir, remplis de vide. Ils n'ont aucun espoir, aucune espérance. La vision chrétienne du monde est totalement différente. Le chrétien se dit, voilà, je sais que je suis créé à l'image de Dieu, que Dieu m'a placé dans ce monde, qu'il a créé pour sa gloire. Le problème, c'est le péché. Avec tous ses fruits, les fruits de la misère, les fruits de la mort. Mais nous avons une solution. Cette solution, c'est que nous avons un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort sur la croix. Et sa résurrection est une victoire, et nous vivons dans la puissance de son triomphe. L'incroyant n'a pas de Christ, il n'a pas de salut, il n'a pas de victoire, il n'a pas d'espérance. La meilleure chose qu'il puisse faire, c'est d'essayer d'éviter la réalité. Le chrétien, lui, il a la victoire en Christ, en Jésus-Christ, le Sauveur. Et Paul va ensuite continuer. Il souligne que les païens étaient privés du droit de cité en Israël. Dans le temps avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, avant que les évangiles ne soient répandus dans le monde, la petite nation d'Israël, ce petit peuple, était le seul qui avait la révélation de Dieu. C'est lui qui avait la lumière de Dieu. C'était le seul à qui Dieu se révélait, que Dieu avait fait cette faveur, avait donné cette faveur. Les Grecs et les Romains étaient des nations puissantes, mais quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur connaissance, leur éducation, leur gloire, ces nations étaient en dehors de ce cercle de lumière. Elles étaient dans les ténèbres. À l'époque, à cette époque, pour être sauvé, il fallait être dans ce cercle, il fallait faire partie de cette nation dans le plan de Dieu, c'est-à-dire non pas simplement un Israélite, mais un Israélite qui croit dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et on voit cela, par exemple, qui est très bien illustré dans le livre de Ruth, avec cette relation entre Ruth et Naomi. Dans ce livre, on nous rappelle que Ruth était une étrangère. Elle avait épousé un des fils de Naomi. Et elle était donc entrée dans la famille juive de Naomi. Et une famine est survenue. Et tous les hommes de la famille sont morts, le mari de Naomi et ses deux fils. Naomi va alors décider de rentrer en Israël pour vivre dans cette dépendance que Dieu avait procurée au peuple, avec toutes les différentes lois pour prendre en charge les veuves. Mais Ruth avait beaucoup appris au sujet du Dieu d'Israël pendant son mariage. Et quand Naomi est prête à partir, à retourner au pays, Ruth va l'interpeller. Elle va lui dire, en Ruth 1, verset 16, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Avant de dire « Ton Dieu sera mon Dieu », elle dit « Ton peuple sera mon peuple. » Elle savait qu'elle ne pouvait pas entrer dans le salut de Dieu sans entrer dans le peuple de Dieu. Alors bien sûr, beaucoup de choses ont changé avec l'Évangile. Il n'est pas question de faire partie d'une nation ou d'une ethnie ou d'un groupe en particulier. Mais il y a toujours la notion du peuple de Dieu. On ne peut pas être sauvé si le peuple de Dieu ne devient pas notre peuple. On ne peut pas maintenir nos anciennes associations quand on vient à Christ. On découvre des nouvelles relations, celles du peuple de Dieu. On vit dans une époque où on a une faible estime pour l'Église, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Alors ça peut être une réaction par rapport au formalisme religieux ou à la vie mondaine de certains qui se professent foi en Christ. Mais notre société qui est individualiste et consumériste influence beaucoup de personnes qui considèrent l'Église de cette même manière. Ils ont une petite vue de la maison de Dieu et ils vont butiner dans une association, puis dans une autre, puis dans une assemblée, dans une autre, puis finalement ils laissent tout tomber. Une des grandes tragédies d'être sans Christ, c'est d'être en dehors de l'Église, en dehors du peuple de Dieu. Martin Lloyd-Jones, le prédicateur gallois du siècle dernier, dit ceci: la chose la plus terrible pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est de ne pas faire partie du peuple de Dieu. Il n'est pas dans ce cercle où Dieu agit avec un intérêt particulier. Et Paul continue pour dire ensuite que les païens sont étrangers aux alliances de la promesse. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que Dieu a donné plusieurs alliances tout au long de l'histoire, une alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que si alliance est au pluriel, promesse est au singulier. Il y avait plusieurs alliances, mais il n'y a qu'une seule promesse. Il y a un seul salut que Dieu a proclamé depuis le jardin d'Éden. Et les païens ignoraient cette promesse de salut que Dieu avait donnée en particulier à Abraham et à sa descendance. Cette promesse, bien sûr, est accomplie avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui nous parle de ses promesses, qui nous parle de ses alliances. Mais les païens ne comprenaient pas, ils n'avaient pas cette parole, comme ceux aujourd'hui autour de nous qui ne viennent pas écouter cette parole. Ils ignorent la promesse de Dieu. Lloyd-Jones dit ceci, il parle de ces personnes qui peuvent lire leur Bible et ne pas être affectées par la parole de Dieu. Ils sont étrangers comme des personnes venant d'un autre pays, ils ne comprennent pas la langue. Seul Dieu, par le don de son Saint-Esprit, peut nous donner des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Voilà ce que étaient les païens. Voilà ce que les croyants d'origine païenne étaient avant leur conversion. Voilà ce que sont les incroyants aujourd'hui. Donc vous réalisez que nous étions ces personnes avant que Dieu nous touche par sa grâce. Nous devons réaliser que c'est une bénédiction de faire partie de la famille de Dieu, d'être les récipiendaires de la promesse de l'alliance du salut en Jésus-Christ. Et Paul termine au verset 12 en décrivant le genre de vie que mènent ceux qui sont sans Christ. Il les décrit comme étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est le troisième point. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était vrai pour la société grecque au temps de l'apôtre Paul. C'est la même chose aujourd'hui dans notre société païenne. Une société sans espérance. Et cela se manifeste dans notre attitude vis-à-vis non seulement de la vie, mais aussi vis-à-vis de la mort. Les gens n'ont aucun espoir dans la vie. C'est pour ça que beaucoup se lâchent dans une course effrénée, une poursuite du plaisir, une poursuite de l'amusement. Ce qu'il faut, c'est passer un bon temps, un maximum de bon temps, et on verra. On verra ce qui viendra après. Ce qui est déprimant, c'est que les quelques personnes qui réfléchissent sont les plus pessimistes. Il y a un commentateur qui cite quelques-unes de ces personnes qui viennent de toutes les couches sociales. Et il va citer par exemple un conducteur de taxi. Il dit « Nous sommes ici pour mourir, simplement vivre et mourir. La vie est une grosse farce. Tout le monde s'en fout. Vous êtes riche ou vous êtes pauvre, vous êtes ici, puis vous êtes parti. Vous êtes comme le vent. Après votre départ, d'autres suivront. Et on n'y peut rien. » Mais si les gens n'ont aucun espoir dans la vie, c'est pire quand il s'agit de la mort. Les païens du temps de Paul n'avaient aucun espoir de vie après la mort. Ils ne s'attendaient qu'à reposer en terre. Un des philosophes grecs dit « Nous serons dépourvus de vie, sans voix, comme la pierre. » Et c'est vrai tout au long de l'histoire. Ceux qui se sont moqués le plus de Dieu dans la vie, ce sont ceux qui se désespéreront le plus en face de la mort. On dit par exemple que de Napoléon Bonaparte, lors de son exil à Sainte-Hélène, qu'à la fin de sa vie, il dit ceci: « Je meurs avant mon temps et mon corps sera rendu à la terre. Quel abîme il y a entre ma profonde misère et le royaume éternel de Christ. » On peut citer un philosophe non-croyant, Thomas Hobbes, qui dit ceci: Si je possédais le monde entier, je le donnerais pour vivre un jour de plus. Je suis sur le point de faire un saut dans le vide. On peut penser à Voltaire. Voltaire, qu'on cite pour son rejet du christianisme. Mais personne ne parle de son désespoir face à la mort. Et il s'écrit: Je suis abandonné de Dieu et des hommes. Et en s'adressant à son docteur, il dit: Docteur, je vous donne la moitié de ce que je possède si vous pouvez me prolonger la vie de 6 mois. Mais en face de cela, on a la joie et la paix que connaissent les croyants. On pourrait citer des exemples. Je ne citerai qu'un exemple d'un réformateur anglais du nom de Rowland Taylor. Il aurait très bien pu échapper au bûcher s'il avait renié sa foi en Christ. Mais quelques jours avant son martyre, il va écrire une lettre à sa famille et il dit ceci: Je crois que ceux qui meurent dans le Seigneur sont bénis. Dieu prend soin des moineaux et les cheveux de nos têtes sont comptés. Je l'ai toujours trouvé plus fidèle et plus bon qu'aucun mari ou père. Croyez donc en lui. Faites-lui confiance par les mérites de notre Seigneur Jésus. Croyez, aimez, craignez-le, obéissez-le, priez-le parce qu'il a promis d'aider. Ne me considérez pas comme mort parce que je vivrai certainement et je ne mourrai jamais. » Voilà l'espérance du croyant. Et Taylor va citer le psaume 27 à la fin de sa lettre. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Voilà la différence du croyant. Et Paul termine cette description de ceux qui sont sans Christ, sans espoir, sans espérance, il dit qu'ils sont sans Dieu dans le monde. On ne peut pas dire que les Grecs n'avaient pas de religion ou pas de Dieu, mais on peut être très religieux et sans Dieu. Les Grecs avaient une armée de dieux avec un petit dé, mais aucun de ces dieux n'était vrai. Aucun ne pouvait sauver, aucun ne pouvait apporter la paix avec Dieu, aucun ne pouvait apporter l'espérance. Aujourd'hui, on croit dans beaucoup de petits dieux avec de dieux avec un petit dé. Il y a le faux dieu du succès. Jack Higgins, un romancier britannique à succès, fait cette confession. Il dit « Quand vous arrivez au sommet, il n'y a rien. » Il y a le faux dieu de l'argent, mais qui ne peut pas acheter la joie, qui ne peut pas acheter la paix, qui ne peut pas acheter la satisfaction, qui ne peut pas acheter la réconciliation avec Dieu. Il y a le faux dieu de la beauté qui exige un service tyrannique. Il y a le faux dieu de la romance qui très souvent disparaît ou trahit. Il y a le faux dieu de la renommée qui s'enfuit, qui est infidèle. Il n'y a que le vrai Dieu qui est révélé dans sa parole, qui nous sauve en Jésus-Christ, qui nous donne l'espérance que nous désirons avec ardeur. Lui seul est notre forteresse, lui seul est notre salut. Avec Christ, nous avons l'espérance parce que nous avons le vrai Dieu qui sauve, qui est entré dans ce monde pour vaincre le péché et la mort. Comme le dit Charles Spurgeon, il dit « Sans Christ, même si l'on est aussi riche que Crésus, aussi connu qu'Alexandre le Grand, aussi sage que Socrate, nous sommes nus, pauvres et misérables, parce que nous n'avons pas celui par qui et pour qui sont toutes choses, qui est lui-même tout et en tous. » Souvenez-vous, dit l'apôtre Paul, n'oubliez jamais. Paul veut que nous n'oublions jamais. Souvenez-vous de ce que vous étiez, de ce que vous êtes maintenant en Christ. À cause de la grâce de Dieu, vous avez un sauveur. Vous êtes membre du peuple de Dieu. Les promesses de la parole de Dieu sont signées, elles sont scellées pour vous. Tout cela par grâce, tout cela en Jésus-Christ. Trois choses, trois applications pour terminer. La première, la raison pour nous souvenir, pour nous de nous souvenir de ces choses, c'est de stimuler notre reconnaissance, notre gratitude envers Dieu. C'est Cicéro qui dit « La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. » Et si nous sommes reconnaissants envers Dieu, notre cœur va vouloir vivre pour lui. Rappelons-nous que ce que nous étions avant que Dieu n'intervienne dans nos vies par sa grâce. Réalisons ce que nous pourrions être, ce que pourrait être notre destinée si Dieu n'était pas intervenu en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons besoin de revenir régulièrement à cet enseignement de la parole de Dieu sur le péché, sur le jugement. Ce n'est pas pour nous abattre, mais parce que si nous ne réalisons pas ce que nous étions et ce que nous méritons par nature, jamais nous ne pourrons louer Dieu comme nous le devrions. Donc la première chose, la raison pour nous souvenir de ces choses, c'est de stimuler notre reconnaissance et notre gratitude envers Dieu pour sa grâce en Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que contrairement aux Juifs qui méprisaient les païens, sans espoir, nous devrions considérer avec beaucoup de compassion ceux qui aujourd'hui sont sans espoir, qui vivent sans Dieu dans le monde. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ce qui fait la différence, c'est que nous sommes les objets de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons vivre cette vie, manifester cela dans la manière de vivre, dans nos priorités, parler de ce salut autour de nous, ce salut que Dieu offre par la foi en Jésus-Christ. Et la troisième chose, c'est que nous ne devons jamais désespérer en tant que chrétiens. Nous ne devons jamais laisser la rancœur nous saisir si nous souffrons ou si nos désirs ne s'accomplissent pas. Ne jamais laisser la tentation devenir notre maître. N'oublions jamais la grâce de Dieu. Rappelons-nous ce que Dieu a déjà fait pour nous par grâce. Rappelons-nous ce que cela lui a coûté. Ne doutons jamais de son amour pour nous. Et si Dieu nous a donné son Fils, combien plus nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui. Vivons cette vie avec courage, avec détermination, avec espérance, dans la joie, sachant que nous faisons partie de ce grand dessein de Dieu, de le glorifier et de vivre dans sa présence pour toujours. Comme le disait cette mère à ses enfants alors qu'ils partaient à l'école, rappelons-nous qui nous sommes en Christ et à qui nous appartenons. N'oublions jamais, souvenons-nous, dit l'apôtre Paul, de qui vous étiez et de ce que vous êtes en Christ. Que Dieu nous aide à nous rappeler, à nous souvenir de ces réalités et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.